setmanes de Setmana Negra, doncs tenim una taula de luxe. Sabeu que sempre al festival, al marge de taules d'autors, a vegades de novetats, a vegades de no, que no són novetats, el que intentem també és recordar, explicar sempre taules que van dedicades o a un llibre, a un personatge o a un autor. En aquest cas, aquest any hem fet dos, que són Boris Vian i Oswaldo Soriano, per motius del centenari d'en Boris Vian. Aquest any hem decidit que el personatge sigui el nostre comissari favorit i aleshores tenim una taula que és un luxe absolut. Ens ho presenta l'Anna Guitart, que ja per si ja és un luxe, però tenim la fortuna i el plaer de tenir el senyor Pierre Gasolin per parlar-nos de lo que sàpiga. Es quedarà en curs, serà una taula que es quedarà curta. També tenim el privilegi de tenir el senyor Joan de Sagarra i també el privilegi de tenir el Jordi Tiràs. Gaudim moltíssim d'aquesta taula, que es farà en francès. Els audífons podeu sentir en català. I res, moltes gràcies per haver vingut.
Com deia el Carlos, moltes gràcies per haver vingut. Per mi també és un luxe avui parlar amb aquests tres senyors que ens avantan de Maigret, de Simenó. Farem la xerrada en francès, com deia el Carlos, per no anar fent canvis constants de llengua. Jo intentaré parlar el menys possible perquè els tenim amb ells i perquè més tinc angines, o sigui que demano disculpes també per aquesta veu tota rogallosa que tinc. Ara el Carlos, quan ens deia parlarem de Maigret, deia el nostre comissari favorit, no? Jo crec que Maigret té aquesta cosa de la implicació emocional que tenim molts amb ell, personal. Jo, per exemple, Maigret em ve dels meus pares, crec que és una cosa que he heredat d'alguna manera, els personatges també es poden heredar, és una cosa que jo he après. I jo pensava que, igual que tots vostès deuen tenir una història amb Maigret, m'agradaria molt saber quina és la història de tots tres. Bonjour, merci de nous accompagner cet après-midi. Je disais qu'on a tous une histoire.
On a compris.
Vous avez... parfait. Oui. Ah, il y avait la traduction déjà.
Non.
Non. Ah bon, d'accord. Oui. Vous êtes fort. Alors, je voulais savoir un peu. Ça vient d'où votre passion de Maigret? Comment est-ce que vous avez découvert le personnage? Pourquoi est-ce que vous êtes assis aujourd'hui ici?
Qui commence?
Vous-même, si vous, ou Monsieur oui. Sagarra?
Moi, je le regrette, mais je vous entends pas.
Vous ne m'entendez pas?
Non, il y a un problème. Je demandais là, j'entends pas.
Non, ah. En fait, on n'a pas de.
Je vous entends parler, mais je ne vous comprends pas.
Ah, d'accord.
Il y a un petit problème là, je ne sais pas.
D'accord. Écoutez, je voulais savoir quelle est votre relation avec Maigret. Comment est-ce que vous êtes arrivé au commissaire et quelle a été votre histoire avec lui qui fait que vous soyez aujourd'hui assis ici avec nous?
Alors, vous me demandez pourquoi moi je me suis intéressé de Simenon, Maigret et tout ça.
Oui, Maigret surtout.
Voilà. Quand j'avais 10 ans, 9-10 ans, il y avait un bouquin que lisait ma mère. Et c'était un bouquin de Simenon. C'est comme ça que je commençais à lire Simenon, à travers ma mère. Mm-hmm. Mon père, c'était un grand écrivain catalan qui n'aimait pas ça. C'était un bouquin d'un polar, chose comme ça. Si, il appartenait au sens « je n'emmène pas trop ces gens-là ». Non. Mais ma mère... je pris une sympathie pour Simenon avec ma mère. Puis, je suis passé au cinéma. Simenon dit que pour lui, Maigret, parce qu'on parle de Maigret aussi, c'est le frère de Renoir, Pierre Renoir. Puis il y a Rémy, Michel Simon et Gabin. Pour moi, c'est Gabin.
Et d'autres après aussi.
Pour moi, c'est Gabin parce que... pas Maigret exactement. Parce que pour moi, à l'âge que j'ai maintenant... Je commençais avec Maigret, mais maintenant, pour moi, c'est Simenon. Donc, comme si vous voudrez, je crois que vous, quand vous allez voir Siménon quelques mois avant de mourir, il y avait déjà une identification entre le biais Maigrette et le biais Siménon. C'était un personnage. Quand ça a commencé pour moi, c'était différent. Mais à la fin, pour moi, je me suis beaucoup oublié de Maigrette et j'ai découvert un Siménon que peut-être c'était une autre Maigrette. Je n'avais pas envie ou je ne voulais pas le dire. Mais c'était comme ça. Parce que j'avais commencé avec le petit Maigrette et je ne voulais pas croire que je finirais avec un grand Maigrette comme mon père, par exemple. Non, et ça a été beaucoup le cinéma. Maintenant, il y a des problèmes que je vais poser ici. Par exemple, je vais demander à M. Assouline. M. Assouline nous dit que, évidemment, il sait tout absolument sur Maigrette. Non, il dira que non. Mais pour nous, évidemment, sa biographie, l'autodictionnaire, beaucoup de choses, évidemment. Je pense que quelqu'un qui a 16, 15, 23, 33 ans et veut savoir quelque chose sur Siménon, il est obligé. Comme moi, par exemple, quand j'ai lu le cas Siménon, mais c'était l'année 52.
Oui.
Et parce que le bouquin est publié un an avant. Oui. Mais maintenant, il faut aller à vous. Ça c'est évident. Ça, c'est... Alors, il y a deux choses que... quand il a publié l'auto-dictionnaire, il parle de qu'il a envie, quand il est allé à Stockholm et à Rome, d'entendre des gens qui ne sont pas français, mais qui parlent de Siménon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Siménon? Et moi, j'ai envie qu'il soit ici parce que j'aimerais qu'il me raconte qu'est-ce qu'il sait sur le Siménon catalan ou le Siménon espagnol. Parce que s'il ne le sait pas, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Peut-être maintenant, les jeunes ne lisent pas et voient la télé. Il y a un problème avec Siménon, que Siménon, à la fin, c'est devenu un personnage, je parle de Maigrette, un personnage télé. Ici en Espagne, l'année 92 et 93, on a fait exactement 12 chapitres d'une série de Siménon avec Michel Gambon. C'est tout ce que le public espagnol connaît de Siménon. Quand mon ami Juan Marcé, un grand écrivain, il n'aime pas Agatha Christie, mais il ne perd jamais le poireau à la télé, parce qu'il adore le personnage, l'acteur. Et ça se passe beaucoup avec deux gens d'ici qui aiment Camilleri à travers le personnage qui n'a absolument rien à voir avec le Camilleri qu'on lit. Parce que le Camilleri qu'on lit est tout à fait pareil au Maigrette italien. C'est Gino Cervi. Comme ça, 110 kilos, 1,90 m. Alors, c'est pour ça que ça me fait beaucoup de plaisir d'être à côté du maître Assouline et lui demander qu'est-ce que... Si vous avez quelque chose sur notre Siménon.
En fait, excusez-moi, monsieur Assouline, parce qu'il a des questions, on a plein de questions aussi.
Ben oui, mais d'abord répondez.
Oui, on va entendre aussi monsieur Tiras.
Et après, on va revenir.
Mais je voulais dire aussi, s'il y a des questions à la fin, on va réserver 10 minutes. Si vous voulez, si vous avez une question que vous tenez vraiment à faire, on va garder 10 minutes à la fin. J'ai oublié de dire ça au début, excusez-moi.
1 minute.
10 minutes.
Ah oui, bon.
Ce sera court quand même. Monsieur Tiras.
Je reviens à la question de départ, c'est ça. Oui. Bon, bonjour à tous d'abord, et pardon de parler français, j'aurais bien aimé parler en espagnol, mais le problème des croisements des langues fait que c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai un peu la même expérience que monsieur Sagarra, c'est-à-dire que Siménon, au départ, est une lecture d'enfance. Chez moi aussi, ma mère lisait, mon père faisait autre chose. Et ma mère lisait essentiellement des romans policiers. Et donc, dans sa bibliothèque, il y avait Agatha Christie, Conan Doyle et Simenon. La découverte de Simenon, quand on découvre un petit peu la littérature policière, qu'on est préadolescent, oui, c'est ça, c'est 10, 11, 12, 13 ans. La découverte de Simenon, pour moi, c'est la découverte de quelqu'un qui continue à faire du roman policier. Et je crois que la structure fondamentale de ces Maigret, c'est une structure de roman policier, avec une procédure d'enquête et le double récit du roman policier. Mais il apporte quelque chose de plus, qui est une profondeur dans l'examen du contexte social, qui fait qu'il est un peu le chaînon manquant entre le roman policier et le roman noir. C'est-à-dire que c'est un romancier de transition, si je puis me permettre, M. Assouline. C'est un romancier de transition entre le roman policier, on va dire pur, et le roman noir. C'est-à-dire qu'il apporte effectivement une profondeur et un sérieux, un souci du détail dans l'évocation. Après, on aura sans doute l'occasion de gloser le fameux terme atmosphère. Hein. Mais il apporte ça, c'est-à-dire que l'atmosphère, elle tient beaucoup à son examen du lieu, du contexte social, des personnages qui le peuplent. Et donc, il apporte une dimension supplémentaire qui est un sacré argument de lecture, je trouve. Parce que quand on commence à lire Maigret, je connais personne qui ait commencé à lire Maigret et qui ait dit oh, c'est pas terrible, je laisse. En général, on est immédiatement accroché, et je crois pour longtemps.
Alors, moi, en fait, contrairement à vous, je n'ai pas connu Maigret ni Simenon jeune. Je les ai découverts vers l'âge de 30 ans, ce qui est très rare pour une découverte, très tard pour une découverte, simplement parce que je préparais, donc j'avais environ 30 ans, une biographie de Gaston Gallimard. Et je cherchais à étudier notamment les relations entre Gaston Gallimard et chacun de ses écrivains. Beaucoup étaient morts, Simenon était vivant. Je lui ai écrit. Il m'a dit, je ne donne pas d'interview, c'est fini, mais je peux vous aider. Et on a eu une correspondance très intéressante pour moi. Et j'ai inclus ses réponses dans ma biographie de Gaston Gallimard. Et par la suite, je lui envoyais mes livres régulièrement. Il me répondait très gentiment. Et on avait des relations cordiales sans se connaître. Mais j'ai commencé à le lire plus attentivement. Et là, je suis rentré dans un continent, parce que c'est 200 romans. En tout, c'est 200 romans. Environ 70 Maigret et 130 non Maigret. J'ai commencé à m'immerger dedans, et progressivement. Et puis un jour, je me suis aperçu que, des années après, qu'il n'y avait pas de biographie de Simenon. Il y avait beaucoup de livres qui sont des analyses.
Oui, il y a une bibliographie critique qui est abondante.
Mais ce qu'on appelle la biographie au sens complet du terme, au sens, disons, américain ou anglo-saxon, n'existait pas, alors qu'il y a beaucoup d'analyses de l'œuvre, beaucoup de parfois de livres pittoresques, etc. Et ça m'a fait un flash, et je me suis dit, ben, voilà, je vais la faire, cette biographie. Et je lui ai écrit pour lui dire, j'aimerais vous parler, venir vous parler. Il m'a répondu, mais je ne donne pas d'interview. Je dis non, vous ne comprenez pas, je voudrais vous parler d'un sujet qui vous touche de près, votre biographie. Et le lendemain, sa compagne m'a téléphoné, elle m'a dit, venez demain. Elle m'a dit, nous sommes en vacances, rejoignez-nous dans nos vacances. Alors j'ai eu un peu peur parce que je me voyais aux Bahamas ou dans les îles lointaines. Et en fait, ils étaient en vacances à 100 mètres de chez eux, dans un grand hôtel qui s'appelle le Beau Rivage, qui est le Palace de Lausanne. Il avait loué toute une suite, c'était ses vacances. Il était déjà sur un fauteuil roulant. Et donc là, j'ai pu parler avec lui une demi-journée. Et pendant cette demi-journée, je lui ai dit ce que je voulais faire. Et il m'a donné accès à ses archives privées qui n'avaient jamais été consultées, qui étaient chez lui, dans la cave, qui est une vraie cave suisse, c'est-à-dire anti-atomique, anti-virus, anti-tout, quoi. Vraiment la Suisse. Et je m'y suis installé. Il est mort juste après. Et je m'y suis installé et j'ai pu travailler pendant 3 ans. Alors là, j'ai lu tout Simenon. Puis une deuxième fois, j'ai relu à nouveau tout Simenon
deux fois les 200 romans, mais avec un crayon. Et parallèlement à ça, j'ai lu des milliers et des milliers de lettres qui sont vraiment le seul moyen d'écrire la biographie de quelqu'un et d'un homme pareil encore plus. Et comme il gardait tout et qu'il classait tout, tout était classé, rangé, c'était parfait. Alors, c'est... par rapport à Maigret...
Excusez-moi, c'était des lettres surtout ou c'était quoi exactement?
Ah non, des lettres.
Des lettres.
Ah non, mais c'est des dizaines de milliers de lettres. Depuis le début jusqu'à la fin, plus les contrats d'édition, plus des cartes postales, plus... Il gardait même les ordonnances de médecins pour les pharmaciens. Ça m'a permis de reconstituer ses maladies et de voir quand est-ce qu'il mentait sur ses maladies, quand est-ce qu'il en rajoutait un peu, etc. C'est formidable, y compris des petits mots personnels, enfin tout. Et puis, pour répondre à votre question initiale vraiment sur Maigret, en fait, ayant tout lu deux fois, ayant pris un plaisir immense, je ne vous cache pas que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Maigret, mais je l'ai un peu méprisé par rapport aux autres livres. Et ça, c'est Simenon qui en est le responsable, parce que Simenon était le premier à mépriser Maigret. Il disait « J'écris des Maigret entre deux romans durs pour me détendre ». Donc, c'était une façon de dire ben, « C'est un délassement, donc ce n'est pas très important ». Et j'ai été piégé par ça. Et j'ai compris d'abord pourquoi il disait ça. Il disait ça parce qu'en fait, il en voulait à Maigret. Simenon en voulait à Maigret d'être plus connu que lui. C'est-à-dire que la stature de Maigret a dépassé son créateur. La créature a étouffé le créateur. Et il en était presque complexé. Parce que pour beaucoup de gens, quand on dit Simenon, ben on dit roman policier, donc Maigret. Et lui disait, non, mais attendez, c'est pas ça le plus important. Et donc, ça le vexait un peu. Et donc, il en voulait à Maigret de cette importance considérable, surtout grâce à la télévision et au cinéma. Alors là, ça a été... Et en même temps, il était responsable et lui-même poussé justement à ça. Moi, maintenant, avec le recul, j'ai à nouveau tout relu, souvent, et maintenant, je serai le premier partisan que les œuvres complètes de Simenon comprennent les romans durs, les Maigret et même les dictées, et que ça fasse un ensemble, que ça soit sain d'un bandeau qui s'appellerait la comédie humaine, ou plutôt, pardon, pas la comédie humaine, qui est le titre de Balzac, mais un titre que j'ai toujours voulu emprunter à Malraux, et on peut le faire, La condition humaine. Chaque fois, je me trompe. Non, c'est La condition humaine. Parce que dans les enquêtes de Maigret, qui ne sont pas que des jeux, que des délassements, que des... c'est pas des whodunits, surtout pas. Il y a de l'humanité, exactement comme dans les autres livres. Il y a même parfois dans des Maigret, il n'y a peut-être pas de mort. Les mémoires de Maigret, qui est une mise en abîme extraordinaire du créateur sur sa créature, les mémoires de Maigret, c'est un exercice de style formidable. Il n'y a pas de mort. Puis il y en a d'autres. Il y a beaucoup de nouvelles de Maigret aussi. Donc, moi, je suis vraiment partisan de bien faire comprendre au lecteur, un, Simenon n'est pas un auteur de romans policiers, et deux, c'est un écrivain total, et plutôt c'est un romancier total, car il refusait le terme d'écrivain. Il disait, moi non, je ne suis que romancier, je ne sais faire que ça. Mais un romancier total, et ça, la condition humaine, ça englobe cette totalité. Alors ça, c'est là où j'en suis maintenant, mais il m'a fallu passer par différents stades dont il est en partie responsable, et moi aussi. Bon.
Est-ce que vous croyez que le succès de Maigret se doit en partie à, justement à ce fait, à le fait que quand on lit des Maigret, il y a la condition humaine dedans, on a la sensation, parfois c'est un commissaire, je n'ai rien à voir avec lui, mais parfois j'ai l'impression que c'est de lui qu'il parle. C'est de
ça.
Moi qu'il parle.
Il ne faut pas oublier une chose, le succès de Maigret, il est né en même temps que Maigret. En 1929, trois Maigret sortent en même temps. Les trois sont des succès de librairie. Les trois sont adaptés au cinéma la même année. Avec quel écrivain ça arrive? Avec personne. Jamais. Et ça n'a jamais cessé. Aujourd'hui, c'est l'auteur de langue française le plus adapté à l'écran, petit ou grand. Sous l'Occupation, il était l'écrivain de langue française le plus adapté devant Balzac. C'est considérable. Avec lui, c'est toujours des chiffres énormes, toujours. Bon. Moi, je crois que le succès de Maigret vient en partie, quand même en grande partie, du cinéma et de la télévision, qui ont ajouté quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Maigret sans voir Jean Gabin, ou Michael Gabon, ou bien le Maigret japonais. On ne peut pas ne pas identifier Bruno Kremer. Moi, je suis très attaché à Bruno Kremer parce que... il va y avoir un Maigret à la rentrée. Je crois que c'est Daniel Auteuil,
qui est
un acteur français. Oui. C'est un peu difficile d'imaginer Daniel Auteuil, mais bon, ça sera un seul film de cinéma. Ce n'est pas une série pour la télévision. Mais de même qu'il y a eu un Maigret anglais qui était
Ron Atkinson,
Mr. Bean.
C'était difficile à imaginer aussi. Hein.
C'est, quand on a appris que c'était Mr. Bean qui allait jouer Maigret, on est tombé de notre chaise. Bon, finalement, c'était pas mal, mais ils ont arrêté. Pour moi, Maigret, et je suis d'accord avec Jean-Pierre, je peux vous appeler Jean-Pierre, il s'appelle pas Jean-Pierre, mais en France, il s'appelle Jean-Pierre. Et on est un peu en France, là.
Pour lui, je suis Jean-Pierre.
Ben, pour moi, vous êtes Jean-Pierre. Je suis d'accord avec Jean-Pierre parce que, pour moi, Maigret, c'est quelqu'un de grand, relativement grand, de massif, d'épais et qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui écoute. C'est pour ça que les bons Maigret, c'était Pierre Renoir, le frère de Jean Renoir, donc au tout début, Michel Simon une fois, Michael Gambon en Angleterre, et puis Jean Gabin. Jean Gabin était remarquable. Et puis quand même, moi je suis très marqué par, mais c'est la télévision, mais par Bruno Kremer, qui a cette stature, enfin qui il parle pas, mais son mutisme exprime un monde, tout un monde. Il n'a pas besoin de parler. Maigret et Bruno Kremer, il lui suffit de rentrer quelque part et de s'asseoir, il dit rien, il fume sa pipe, et tout de suite, il y a une humanité qui se dégage. Pour Simenon, le pire Maigret, et là je suis d'accord entièrement, c'est Jean Richard, qui a été le Maigret... historique à la télévision française pendant très longtemps.
Je crois qu'il y a au moins 90 épisodes.
Je sais pas, pendant des années et des années, il a incarné Maigret. Et Simenon, en tout cas, il me l'a dit, mais il l'a écrit, il me disait, c'est ce qu'il y a de pire. Il me disait, Jean Richard, il est vulgaire, il est petit, il n'arrête pas de parler, et en plus, quand il rentre dans la cuisine d'un personnage de Maigret, il rentre dans la cuisine, il s'assoit devant une dame, il n'enlève même pas son chapeau.
C'est pas Maigret, ça.
Maigret n'aurait pas fait ça.
Mais pourquoi, quand Simenon voit le sang d'un homme avec Gavin, il dit « Ça n'a rien à voir avec mon roman. Je ne me reconnais pas à travers ce personnage. »
Il a toujours dit.
Et la relation de Simenon avec le cinéma, elle est tout à fait compliquée et même injuste. Il y a des moments qui n'est pas juste, non ?
Simenon.
Et quand il dit, c'est moi qui va faire mon cinéma, c'est moi qui va faire le film, absolument tout. Il a des amis, il a une amitié magnifique avec Jean Renoir, mais il y a après le genre de l'argent. Les gens qui vont finir avec le film.
Alors, Simenon et le cinéma, c'est très intéressant par rapport à Maigret aussi. Au début, dès que c'est sorti, donc 1929-1930, non seulement trois films sont adaptés de ces trois premiers romans, mais c'est quand même trois metteurs en scène remarquables. Vous avez Jean Renoir, qui déjà est quelqu'un, Abel Tarride, et vous avez Julien Duvivier. C'est quand même, ça ne sera pas les pires.
C'est une chance extraordinaire qu'il a eue tout au long de sa vie et que l'œuvre a eue tout au long de son existence. Parce que ce sont les plus grands réalisateurs français qui ont
très souvent.
Qui ont
très souvent, même à la télévision. Ouais,
c'est-à-dire, il y a Pierre Granier-Lefebvre, il y a Bertrand Tavernier.
Début,
il y a vraiment une liste extraordinaire. Et pour les interprètes, c'est pareil. Quand vous regardez Le Train, vous avez Trintignant et Romy Schneider.
Alors, il a souvent été gâté, mais au tout début, en 1930, il a pensé qu'il pouvait faire, lui, les films, ou en tout cas travailler les scénarios avec les metteurs en scène. Ça a duré 2 ans. Il a collaboré à des scénarios, mais très vite, Il a dit, c'est pas mon métier. C'est un métier, c'est pas le mien. Parce que tous ces gens, même les cinéastes bien intentionnés, ils tripotent mon livre. Et en tripotant, ils changent des choses. Ça m'énerve trop. Maintenant, pour moi, il avait dit, le cinéma, c'est une caisse enregistreuse. C'est de l'argent, du cash. Et ça a toujours été comme ça. Il n'a jamais voulu s'en mêler. Il a même eu la coquetterie par la suite de dire, enfin, après la guerre, moi, mes films, ne m'en parlez pas, les films adaptés de mes livres, car je ne vais jamais les voir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il disait, je les ai jamais vus, je ne vais pas les voir, et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent que ça rapporte.
Parce que c'est étonnant. Il a une grande amitié avec Fellini. Il est au Festival de Cannes dans le moment où le prix avec son ami Henry Miller.
Enfin, il est président du jury. Il faut quand même dire une chose.
C'est étonnant, la Dolce Vita à l'époque, qui s'assort de...
Attendez,
il est un président.
Il faut rappeler, on est en 1950, Fellini n'est rien. Simenon est président du jury au Festival de Cannes, qui est le pire public qu'on puisse imaginer. C'est un public qui siffle des chefs-d'œuvre, soi-disant des professionnels du cinéma. Bon, eh bien, Fellini, personne ne voulait de son film quand il est passé. Et Simenon a été ébloui par son génie. Alors qu'il était inconnu, il a convaincu les membres de son jury, qui étaient composés à moitié d'écrivains. À l'époque, les écrivains, ça comptait un peu en France. Et donc, très souvent, les jurys de Cannes, c'était pour moitié des écrivains. Marcel Achard, tout ça. Et il a convaincu, et il restait une voix en suspens, c'était Henry Miller. Et il était venu très copain avec Henry Miller. Henry Miller n'avait vu aucun film. En fait, il avait accepté d'être membre du jury pour échapper à sa femme et pour partir avec sa maîtresse à Cannes. Et donc, il était là, mais il n'avait rien vu. Alors, Simenon jouait au ping-pong avec lui tous les jours. Et il a joué. Il a dit, si je gagne, tu votes pour Fellini. Il dit, oui, d'accord. Il a gagné. Il l'a donc fait voter pour Fellini. Fellini a eu la palme d'or pour la Dolce Vita. Ça a été sifflé par le public. Mais ça a été le début d'une carrière extraordinaire. Ouais. Et Fellini est resté l'ami de Simenon jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, il lui a dit, je lui dois ma carrière.
C'était une relation, je t'aime, tu es mon ami, je t'aime, jusqu'à la fin. Hein.
Leur correspondance est formidable. Hein. Elle a été publiée.
Il y a eu aussi le Grand Prix du jury là, cette année-là à Cannes, il me semble que c'était 1960. Le Grand Prix, ça c'était le prix. Le
Grand Prix, oui.
Le Grand Prix, mais il y a eu le prix spécial du jury qui est allé à l'Aventura.
D'Antonioni.
Et il y a eu aussi un gros scandale sur ce film.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Cannes, l'habitude.
Vous avez sorti un mot, M. Tiras, il y a un moment, qui apparaît toujours, quand on parle de Maigret, de Simenon, c'est l'atmosphère.
Oui.
Vous en avez parlé, vous avez souri.
Oui, oui.
On peut parler un peu de
oui,
ça
oui,
aussi.
Monsieur Assouline a beaucoup insisté là-dessus pour dire que la qualité profonde des Maigret en particulier, mais je crois de tous les romans de Simenon, c'est l'habileté à mettre en place une atmosphère, effectivement, qui c'est-à-dire que quand on ouvre un Simenon, si on ne sait pas de qui est l'auteur, il y a quelque chose de particulier qui en émane, qui fait que...
Je voulais vous poser une question, justement, à tous les deux, parce que moi, je lis Simenon et Maigret en français, évidemment.
Oui, aussi.
Oui, non, mais... Oui, mais vous savez ce que ça donne en espagnol. Vous l'avez déjà lu en espagnol?
Alors,
Jean-Pierre, oui. Et oui,
moi,
vous l'avez lu en espagnol. Mais Simenon.
Quoi?
Maigret.
Maigret en espagnol?
Vous l'avez lu en espagnol ou toujours
non,
en français?
Non, jamais.
Ah bon, bah alors personne...
Non, 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 mais écoutez, quand même, non.
Moi,
c'est-à-dire, pas pour le plaisir de les lire, mais du point de vue critique, si.
Mais comment c'est...
Parce que, oui. Parce qu'il y a une histoire de Simenon... en Catalogne, en langue espagnole et en langue catalane. Il y a les amis de Simenon, catalan. Il y a un peintre qui s'appelle Créixams, c'est un personnage de Montparnasse, le Montparnasse entre deux guerres, à l'époque où il allait là, à la boule blanche, il faisait ses fêtes et tout ça. Et puis il y a un autre personnage qui s'appelle Cañamélas. C'était son ami qui lui avait demandé le droit pour faire ses romans, Maigrette, basiquement, en Espagne, en Catalogne. Et il n'avait pas l'argent, ça marchait. Mais de toute façon, il a traduit à la fin. Puis c'est changé, c'est un autre éditeur qui s'appelait Aima. Puis il a eu Juventud. Et à ce moment-là, il y a l'Acantilado. Et je vous dis que c'est pour ça que je le lis dernièrement, parce que c'est très difficile. Le langage, cet style, cette faute de style, cette chose étrange qui n'est pas Céline, l'appliquer au catalan, c'était impossible.
De Simenon ?
C'était impossible, parce qu'il y avait un catalan, ce que nous appelons « noucentisme », c'était trop classique, ça n'avait absolument rien à voir avec lequel ils ont fèvre pour nous entendre. Et en même temps, quand il y avait une espèce de Maigrette en tirant vers Céline, ça ne marchait pas. Mais maintenant, l'Acantilado, je vous assure que ce sont des traductions, même au catalan castillan, très bonnes.
Moi,
mais
disais,
c'était difficile. Hein.
C'est difficile.
C'était pour le catalan, difficile de trouver, de le trouver.
Pour le catalan, je ne sais pas, parce que je ne suis pas compétent, donc je le regrette beaucoup. Mais pour le castillan, j'ai regardé, parce que quelque chose qui m'intéressait, c'était en fait, j'ai un exemplaire du Chien jaune, donc c'est el perro canela, je crois, en castillan. En catalan, je ne sais pas. El gos, quelque chose.
Croc.
El gos.
Croc.
Aha. Et la première page m'intéressait pour des questions en relation avec le cinéma, parce que je me permets un petit excursus, mais il me semble que si Simenon est aussi adapté au cinéma, aussi bien les Maigrets que les romans durs, c'est parce que le texte en lui-même se prête à l'adaptation. Il fournit, me semble-t-il, peut-être il suggère des mouvements de caméra, il suggère des ambiances, etc. Et je trouve que c'est exemplaire dans la première page du Chien jaune. Et ce que j'ai fait, c'est regarder comment cette première page était traduite en castillan. Et ben, c'est très, si vous voulez, enfin, si on a le temps, je ne sais pas, je peux,
oui, oui,
je peux lire.
Oui, bien sûr.
Oui, bon. Je lis d'abord en français et ensuite la traduction espagnole. Donc ça commence comme ça. Vendredi 7 novembre, Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville, qu'on aperçoit au-dessus des remparts, marque 11h05. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues, où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière. Tout est fermé, tout le monde dort. Seules les trois fenêtres de l'hôtel de l'amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volets, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde des envies, blotti dans sa guérite, à moins de 100 mètres. Je vais arrêter là. Pour commenter simplement ce début, je pense qu'on voit bien comment on passe d'un plan très très large et puis le plan petit à petit se rétrécit jusqu'à se centrer sur l'hôtel de l'amiral et puis sur les fenêtres et puis sur les personnages qu'on voit à travers les fenêtres. Et ensuite il va y avoir le mouvement inverse, c'est-à-dire que la caméra va s'éloigner et donc on a dès le début du texte des mouvements de caméra tels qu'on ne peut pas penser, on a l'impression qu'il écrit en pensant à un traitement cinématographique de ce début.
C'est un piège, hein.
Probablement. Vous allez me dire pourquoi.
Je vais dire parce que après que vous ayez lu
quelques lignes de la traduction. Viernes 7 de noviembre, Concarneau está desierto. El reloj luminoso de la ciudad vieja, que se divisa por encima de las murallas, marca las 11:05. Hay pleamar y las barcas chocan unas con otras en el puerto. Debido a una tormenta del sudoeste. El viento se cuela por las calles, y a veces pasan trozos de papel volando a gran velocidad a ras de tierra. En el muelle de L'Aiguillon no se ve ni una luz. Todo está cerrado, todo el mundo duerme. Solo las tres ventanas del Hotel de l'Amiral, en la esquina de la plaza que da al muelle, están aún iluminadas. No tienen postigos, pero por los verduzcos ventanales se adivinan con dificultad unas siluetas. Y el aduanero de guardia, aterrido y acurrucado en su garita, envidia a esos remolques que a menos de 100 metros no se deciden a salir del puerto. La traducción es literalmente collée au texte français.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de trahison.
Et il n'y a pas de perte.
Vous savez qui c'est le traducteur? Parce que ce serait bien de lire son nom.
C'est une dame, j'ai oublié. En fait, il y a depuis quelque temps, visiblement, il y a une reprise des traductions par la maison d'édition et la Cantilave.
Oui, depuis 2012.
Voilà. Et donc, je crois qu'il y a, plusieurs traducteurs ou traductrices. Là, c'est une traductrice dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'il y a trois ou quatre personnes qui interviennent et il me semble que les traductions sont plutôt bonnes. Oui.
Quand je vous disais que c'était
un piège
parce que en fait, quand on dit d'un roman et surtout de roman de Simenon, c'est cinématographique, ça sous-entend le scénario est là. Et en fait, c'est pas cinématographique, c'est visuel.
Ah oui,
c'est pas la même chose.
D'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas pensé du tout à l'adaptation.
Non, oui.
Il y a des écrivains. Bien, oui. On connaît des écrivains qui écrivent en pensant à la traduction cinématographique.
Mais lui, il peut pas penser à l'adaptation puisqu'il pense même pas au dénouement de son roman. Il ignore comment il va le conduire et le finir.
Il n'est pas dans cet esprit-là.
Tout à fait. Oui, d'accord.
Donc c'est visuel. Il fait pas de repérage pour autant, parce que tout est en lui. Il y a une décantation. Et 3 ans après avoir vécu quelque chose, ça ressort. Simenon n'a pas d'inspiration. L'inspiration, c'est un vieux mythe romantique. Simenon, il est dans l'imprégnation. Il serait là, il ne parlerait pas, il serait dans un coin, il ne prendrait pas de notes. Il laisserait les choses venir sur lui. Et c'est tout. Il ne ferait pas d'effort. Mais dans 3 ans, dans le roman qu'il serait en train d'écrire, quel que soit l'endroit où ça se passerait, il y aurait un personnage qui ressemblerait à Jean-Pierre. Il y en aurait un qui vous ressemblerait avec les détails de particularités physiques, avec l'accent qui est le vôtre, etc. Ça ressortira 3 ans après. Ça, c'est lui. Ça, c'est l'imprégnation. Et c'est le cas dans tous ses romans. Il n'y a pas de repérage. C'est visuel parce qu'il a un instinct quasi animal. Il y a quelque chose d'animal chez Simenon. Et Maigret, parce que c'est bien d'en revenir à Maigret de temps en temps, Maigret, c'est un animal. Parce que quand il est quelque part...
C'est un gros ours.
Ça vient, quoi. Ça vient, il prend tout. Il va dans un bar, il ne pose pas de questions, presque pas. Mais tout Paris, quand c'est un bar à Montmartre, tout Paris vient sur lui. Il entend des gens qui jouent aux courses, Maigret. Le patron qui lui propose de lui verser encore à boire, il y a un indicateur à côté, il y a... Tout ça vient sur lui, et après, il est dans la déduction. Dans la déduction. Simenon est comme ça, parce qu'il y a évidemment une osmose entre Simenon et Maigret. Hein. Il y a beaucoup de points communs.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est une question qu'on lui a posée beaucoup de fois. Je pense maintenant à l'entretien qu'a eu avec lui Bernard Pivot, quand il y a eu le dernier livre qu'il avait publié pour la mort de sa fille, et Pivot lui demandait, il lui demandait aussi au sujet de l'atmosphère, et Simenon un peu, il se moquait de l'atmosphère, il disait justement ça, c'est pas une atmosphère, c'est j'ai une très grande mémoire, donc je peux tout reconstruire, un peu dans la ligne de ce que vous disiez, et Pivot lui demande aussi, qu'est-ce qu'il y a de vous dans Maigret? Mais lui, il n'est pas très d'accord avec ça.
Il était assez âgé. C'est pas de la mémoire, c'est de l'imprégnation. Il y a des gens qui ont de la mémoire, qui sont hypermnésiques. Lui, il n'est pas hypermnésique. Il est en état d'être imprégné, imbibé, au sens alcoolique du terme, mais imbibé aussi comme une éponge.
Oui, tout à fait.
Voilà, il est quelque part, vous savez, sinon il va dans un bar n'importe où, il s'assoit, il ne dit pas un mot, il ne parle pas aux gens. Il reste une heure, il boit 2 ou 3 coups. Et il est imbibé, comme l'éponge s'imbibe de tout. Jean Renoir disait, c'est incroyable, ça fait Ça fait 40 ans que j'habite dans un petit village, une petite ville à côté de Beverly Hills, aux États-Unis. Je ne sais même pas où est le bordel. Simenon, il vient, deux jours après, il sait où est le bordel.
Bon, ça, c'est peut-être pas tout à fait.
Aussi parce que c'est le bordel.
Parce que c'est un des aspects de sa biographie qui n'est pas le plus plaisant, je trouve.
Non, mais c'est un exemple. C'est un
exemple. Quand il se vante auprès de Fémie,
c'est un exemple pour vous dire qu'il est. Il s'imprègne de tout, quoi. Il a un flair extraordinaire.
Ouais, ouais.
Il a un instinct. Il n'y a pas beaucoup de romanciers. On disait c'est un romancier né N-E-Z. C'est rare.
Et le Maigret, nous parlons de Maigret par exemple, mais il y a des gens, je pense qu'il y a des gens ici, que quand ils vont à Paris, ils vont Boulevard Richard Lenoir, la Brasserie Dauphine, qui ne s'appelle pas comme ça maintenant. Et ils cherchent ça, comme des gens qui viennent ici. Manolo Vázquez Montalbán, il habitait là.
C'est bien, Place des Vosges. 21 Place des Vosges, il y a une plaque. Mm-hmm.
C'est ça. C'est ce que je voulais vous demander, c'est le personnage de Maigret. Comme personnage de la littérature française de ce siècle, à part du siècle 19, bon, 21, ça a encore une certaine force du point de vue touristique. Dans un lycée français, c'est-à-dire. Si avant on parlait de Stendhal, je ne sais pas si on parlait de Céline, je ne sais pas,
non.
Mais on pouvait parler par exemple de. C'est-à-dire, on parle de Modiano et on parle de
mais pas de Simenon.
Non, non. De Simenon, c'est ce que on je voulais savoir.
On ne parle pas de Simenon parce que l'enseignement en France. Est fait par une catégorie de gens, notamment les pédagogues, qui n'ont pas une grande estime pour ce qui est trop populaire. C'est mal vu.
Parce que vous savez, quand vous l'avez. Je lis dans votre bouquin, je pense que c'est dans la biographie, dans lequel. C'est-à-dire, il y a. Moi, je suis romancier, je ne suis pas un auteur de roman policier. Le roman policier, lui, fait beaucoup de mal. Il n'aura pas le Goncourt parce qu'il est un auteur de romans policiers.
Alors,
il n'aura pas. Bon, c'est ce que vous. Il n'aura pas le Nobel pour la même raison. Et il ne sera pas académicien pour la même raison. Mais au moment où Camus a le prix Nobel, qu'est-ce qu'il dit ? Ah, le petit con.
Bon, Sartre dit ça aussi.
Hein ? Je le lis dans votre bouquin.
Oui, mais
le
Sartre,
petit con.
Oui, mais Sartre a dit pire encore. Quand Camus a eu le Nobel, parce que Sartre pensait que c'était lui qui le méritait d'abord.
Il dit, je ne le veux pas pour moi, mais pour mon œuvre. Moi,
ça
c'est absurde, c'est pour lui.
Non, en fait, pour chacune de ces trois choses, quand Simenon est entré chez Gallimard, la NRF, le temple de la littérature, grâce à André Gide, qui était un admirateur absolu, il a arrêté les Maigret. Il a dit, voilà, c'est pas la peine, maintenant je suis entré en littérature. Il est resté quelques années, c'était avant la guerre. Et là, on lui a fait comprendre que, bon, d'abord, c'était difficile. C'est Gaston Gallimard qui l'a imposé au comité de lecture, qui n'en voulait pas, comme il avait imposé Joseph Kessel, dont le comité de lecture ne voulait pas, parce que c'est trop populaire.
C'est Jean Paulhan surtout qui.
Et donc, là, Gaston Gallimard a dit à Simenon. Vous avez arrêté Maigret, c'est bien. Maintenant, il faudrait faire un roman comme vous savez faire, mais un peu plus épais. Parce que là, 180 pages, ça manque un peu de. Il faudrait faire quelque chose un peu dans le genre Balzac. Un petit peu. Alors, il a fait le Testament de Nadieu. Le Testament de Nadieu, c'est déjà plus épais, avec beaucoup de personnages. Il y a un mort quand même, il y a un assassinat, enfin bon. Et c'était pour avoir le Goncourt. Et cette année-là. Un Belge a eu le Goncourt, mais ce n'était pas lui. Pourquoi ? pas à cause de Maigret, enfin, pas non, non, c'est parce qu'il était imbuvable, il était insupportable. Parce qu'à l'époque, il était très prétentieux et qu'il avait une énergie qui insupportait les gens. Il en faisait trop, à tout point de vue, publicitaire, c'était un phénomène, enfin bon. Et les gens du Goncourt étaient très pincés, ils n'en voulaient pas. Les gens du Nobel, n'en parlons même pas, ils ont avalé 3 parapluies tellement ils sont coincés. Et quand il a, après la guerre, sa mère lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas le prix Nobel ?» Il dit « Parce qu'aujourd'hui, je serais plutôt en position de le décerner, pas de le recevoir. Parce que vu tout ce que j'ai fait, maintenant c'est fini, ils ne voudront plus de moi. » Donc il a été déçu par ça. Il aurait voulu la consécration littéraire. En fait, vous savez... Ça fait pas longtemps que les littéraires acceptent Simenon, et encore, pas l'école. Hein. Il n'est pas à l'école, il n'est pas dans les programmes. Moi, je me bats aujourd'hui...
Il n'est pas là.
Il n'est pas dans les programmes, non. Moi, je l'enseigne. J'ai même réussi... Là, je l'enseigne à Sciences Po, mais j'ai même réussi, il y a 2 ans, l'école polytechnique de Zurich m'a offert, pendant une année, la chaire de littérature comme professeur invité. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que vous voulez enseigner pendant une année ? Vous avez carte blanche. » Alors, par provocation, j'ai dit « Simenon ». Ils m'ont dit « D'accord ». Et pour moi, c'était une victoire d'enseigner Simenon à Polytechnique, qui était quand même la plus grande école suisse d'un très haut niveau. Et bon, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, je me bats. Bon, Simenon est accepté. Enfin, il est au sommet, quoi. Il est partout.
Mais il est dans la Pléiade, en tout cas.
Pardon ?
Il est dans la Pléiade.
Il est dans la Pléiade.
Ce qui est une consécration en France.
Mais la Pléiade, c'est plus important que le Goncourt, c'est plus important. Ça dure longtemps, la Pléiade. Ouais. Mais moi, je me bats aujourd'hui pour faire comprendre aux gens de théâtre que l'œuvre de Simenon, c'est un vivier pour le théâtre extraordinaire. Il n'a pratiquement jamais été adapté au théâtre. Une fois ou deux, avant la guerre, c'est tout. Et donc, je n'ai pas eu à convaincre, j'étais d'accord, France Culture, la radio, et la Comédie Française, ils se sont associés, ils m'ont commandé 6 adaptations que j'ai choisies. Ils m'ont dit, vous choisissez. Donc, il y en a eu 5 qui ont déjà été enregistrées et diffusées sur France Culture, enregistrées à France Culture par des comédiens de la Comédie Française. Le Train, Les Mémoires de Maigret, Les Anneaux de Bicêtre, Lettre à mon juge, Lettre à ma mère. Et le 6e, ça doit être à la fin de ce mois, c'est Le Chat, parce que c'est le plus difficile à faire, parce que c'est 2 personnes qui ne se parlent pas. Alors au cinéma, ça va, Jean Gabin, Simone Signoret, ça va, parce qu'ils ont beau ne pas se parler, ils se regardent et on comprend tout.
Ouais.
Mais à la radio, 2 personnes qui ne se parlent pas à la radio,
ça marche pas.
Pendant 1 heure et demie...
Ouais, c'est bizarre.
Dur, hein.
Mais c'est bien vous qui l'avez choisi, non?
C'est moi qui l'ai choisi parce que c'était un roman extraordinaire. Extraordinaire sur la difficulté de communiquer dans un couple qui a passé beaucoup de temps ensemble, qui se détestent, qui se haïssent, mais qui ne peuvent pas se séparer.
Je peux me permettre deux petits oui, commentaires par rapport à ce que vous venez de dire sur la question d'inscription dans les programmes académiques éventuellement. Juste rappeler que Simenon n'est pas un auteur français, mais un auteur belge. Il a toujours refusé d'être naturalisé français. Et donc, peut-être que pour l'Académie des Belles-Lettres françaises, c'est un obstacle à son inscription dans les programmes.
Je le suggère. Non, parce que des auteurs non français, il y a Romain Gary, Joseph Kessel,
qui ont été naturalisés. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je voulais simplement
aujourd'hui,
dire que...
Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, mais on a des auteurs. Maintenant, on s'ouvre beaucoup à la francophonie, enfin, plus qu'avant.
Oui. Oui. Et le deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport au qualificatif que vous avez utilisé, à savoir prétentieux. Bon, une des choses qui m'a beaucoup frappé, en regardant un petit peu ce qu'on peut lire sur Simenon, et non seulement son œuvre, mais les textes critiques, c'est que je trouve qu'il y a une espèce de grand écart entre le bonhomme, qui a quand même beaucoup d'aspects peu sympathiques, je trouve, tout au long de son existence, pour des raisons diverses. Il y a la question des femmes qu'on a juste évoquée rapidement tout à l'heure. Il y a la question de son attitude pendant la période de l'occupation, où certaines de ses adaptations filmiques étaient financées par La Continentale, qui est une agence allemande. Il y a effectivement cette énorme prétention qui le fait gravir des échelons en passant de Fayard à Gallimard et puis de Gallimard aux Presses de la Cité, en pensant que chaque fois il allait monter un peu dans le tableau d'honneur de la littérature. Et donc je trouve que, enfin, c'est comme personnage, on a un peu de difficulté à l'adopter complètement, quoi. Et je trouve que ça contraste énormément avec son œuvre, qui au contraire ne présente que des bons hommes. Enfin, le cas de Maigret est extraordinaire. Maigret est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus aux victimes et aux petites gens qu'aux coupables et aux bourgeois.
Ah ben alors, là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Non, juste sur ce point-là, je pense que l'empathie de Maigret et de Simenon, elle va aux coupables. Ils s'intéressent aux coupables. Les victimes sont moins intéressantes parce que par définition...
Oh, bah, dans le chien jaune que j'ai remis pour le chien jaune,
mais là, par définition, la victime, c'est quelqu'un de passif.
La petite Emma, le colosse...
Je vous assure, dans la suite de l'œuvre, je vous assure, ce sont l'être à mon juge.
Ouais.
Bah, celui qui écrit, c'est quand même quelqu'un qui a tué sa femme. Hein. Bon, c'est un crime passionnel, mais il n'empêche qu'il a tué sa femme.
Il a quand même beaucoup de cordialité et de sympathie pour les petites gens,
pour les
petits laissés pour compte.
Non, mais attendez, c'est deux choses. Pour moi, c'est deux choses différentes. Les petites gens, ce qu'il appelle lui les petites gens, mm-hmm. parce qu'il est issu de ce monde, il a beaucoup de sympathie, de bienveillance pour eux. Mm-hmm. Jamais il va les. Il y a un livre, c'est le seul roman qu'il ait écrit qui soit optimiste. Tout le reste est noir, sombre, glauque. C'est vrai, hein ?
Oui, oui, tout à fait.
C'est un univers quand même qui est sombre.
Tout à fait.
Il y a un livre qui est lumineux, parce que son héros est lumineux, qui s'appelle Couchas. Il est peintre à Montmartre. Le livre s'appelle Le Petit Saint. Et c'est un vrai petit saint, ce héros.
Je connais pas, oui.
C'est le seul. Et je peux vous assurer, c'est incroyable sur 200 romans. Tout le reste, c'est très noir. Mais... je vous assure, si vous lisez sur l'ensemble, l'empathie de Maigret et celle de Simenon, la compassion, elle va au coupable. Pourquoi ? Parce que le coupable, il va mourir. S'il est coupable, il va mourir. C'est quand même l'époque où la peine de mort existe en France. Bon, je veux dire, il va y passer. Donc, j'ai fait un documentaire sur lui, pour Arte, et donc la bande-son, on l'entend dire, les coupables sont plus intéressants que les victimes, parce que la victime, elle est passive. Qu'est-ce qu'elle fait ? La pauvre, elle n'a rien demandé. Elle est victime parce qu'on lui est tombé dessus, parfois par hasard, parfois... Mais le coupable est intéressant. Il est névrosé, parfois il est psychotique, il est mal dans sa peau, il regrette, mais c'est trop tard. Enfin, il est complexe. Donc je pense qu'il s'est beaucoup plus attaché à des personnages comme ça.
J'avais promis des dernières minutes pour des questions du public. On a 6 minutes et demie, désolée. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? On ne voit pas très bien.
Monsieur mais... là-bas, monsieur à gauche.
Ah, là-bas.
Hola, bona tarda. És una pregunta per al senyor Joan de Sagarra. Em sent?
No. Em costa entendre aquesta noia, imagini's a mi. És que aquesta sala no... Això pot estar relacionat amb el Liceu, però des del punt de vista acústic és un desastre.
Faci la pregunta a veure, i si
ho
no
intentaré,
jo ja cridaré més.
A veure, ho intentaré.
Digue-li, i ella m'ho dirà.
Ho intentaré. A veure, el senyor Joan de Sagarra m'ha semblat que ha fet referència a una sèrie televisiva que va fer a Espanya el 92-93, no sé si ho he entès bé. Si és així, si podria donar més informació per poder-la localitzar, i si no, quina creu que és la sèrie francesa que s'adapta millor al Maigret de Simenon? Gràcies.
Ella deia que a vostè abans li sembla que ha parlat d'una sèrie que es va emetre als anys 92-93 i li preguntava si efectivament ho ha sentit bé, si li podia dir quina és aquesta sèrie, I deia, si no hi hagués aquesta sèrie, quina creu vostè de les que s'han fet a França
aquesta
que té més interès?
Aquesta sèrie de la que jo parlava, que jo crec que és l'única sèrie del Maigret que s'ha passat a Espanya, evidentment, duria ser la televisió espanyola, no la TV3, no sé si era la 2, suposo que sí. Això és de l'any 92-93. Es van passar exactament 12 capítols i el que feia de Maigret era Michel Gambon.
Michael
Gambon. L'anglès.
És l'única cosa que jo sé que s'ha passat aquí de Cimeron. Perquè el problema, que és el que jo plantejava, és que avui dia les criatures que no llegeixen, o sigui, la gent ja ni veu la televisió, estan pendents d'això. Llavors, tot el que no està en aquest món pràcticament no existeix. El senyor Solín m'acaba de dir una cosa terrible, que és que els licers, els col·legis francesos, el senyor Cimenon no és un clàssic. Clar, llavors jo pregunto què en queda d'aquest home. Perquè clar, jo recordo la novel·la que em va donar la meva mare o que jo li vaig agafar a la meva mare. També he parlat del senyor que va a París i va al boulevard aquest i es fa la foto com la gent es fa la foto a la Pedrera o aquí a la Rambla o amb el Gaudí de la Sagrada Família. Però què realment queda d'això? Hi ha unes pel·lícules que s'han d'anar a veure, evidentment, a la Filmoteca quan les fan, però jo no veig que hi hagi... Jo volia preguntar-li tant al senyor Solín com al senyor Tiràs, vous savez qu'on est le fondateur, el directeur d'Acantilado, Jaume Vallcorba? Vous l'avez connu?
No.
No? Si aquests senyors haguessin conegut el Jaume Vallcorba, sabrien que el Jaume Vallcorba, que era una persona d'una gran cultura, per ells, Cimenon era realment un clàssic. O sigui, el podien valorar perfectament dintre del que és la novel·la policiaca i la podia vincular perfectament amb els americans, amb un Dashi al-Hamed o inclús amb els russos, amb el que fos, i el podia situar en el seu moment. I si li va donar una importància a la seva editorial és perquè havia parlat amb els editors italians i havia parlat amb els editors alemanys. I aquests senyors sabien que quan publicaven Cimenon estaven publicant un clàssic. I jo el que no sé, i realment m'horroritza, c'est que vous m'avez dit que dans les collèges de France, Cimenon n'existe pas comme un classique de notre temps.
Il n'est pas considéré comme un classique, il n'est pas étudié, alors que pour moi, c'est ce qu'on appelle un classique moderne, classique de notre temps.
Un classique moderne de notre temps.
Et dans le même temps, une fois, j'ai reçu un prix littéraire en Suède. J'ai fait une conférence à l'université de Stockholm, qui est la plus grande université du pays, et il y avait 500 étudiants. J'ai dit, mais en français, je parlais, il n'y avait pas de traducteur. J'ai dit, mais vous avez 500 étudiants en littérature française? Il me dit, oui. J'ai dit, mais quel est leur programme? Ils me disent, ils ont tous appris le français, tous appris le français avec un livre, Le Chien Jaune.
Le Chien Jaune. Qui est une petite merveille.
Ce livre-là, c'est quand même... Et il... voilà. J'ai dit, mais comment ça se fait? Avec un seul livre, on peut apprendre? Il me dit, oui, parce que là, le génie de Cimenon, c'est un lexique, un vocabulaire très réduit, comme oui. Racine.
Réduit,
comme
mais...
Racine. Mais le génie, c'est la combinatoire. Comme Racine. Chez Jean Racine, il y a, dans ses pièces, il y a 1500 mots. Dans celle de Shakespeare, il y en a 10 000, 20 000. Là, il y a 1500 mots différents. C'est rien. On dirait, c'est pauvre. On dirait c'est pauvre. Et quand vous lisez une page de Cimenon, sujet, verbe, complément, c'est avec des mots que tout le monde comprend. Il n'y a pas un mot, mais pas un seul, si un seul. Dans tous les romans de Cimenon, j'ai trouvé un mot où j'ai été obligé d'aller voir un dictionnaire. Vous savez pourquoi? C'est le mot clenche. Vous connaissez?
Pour fermer les portes.
Voilà, c'est pour fermer les portes.
Fermer les portes, oui.
Bon, parce que la clenche,
c'est un mot qu'on utilise dans le nord de la France et en Belgique. Mais dans le reste de la France, on ne connaît pas ce mot-là. Ben, c'est le seul mot que je suis allé chercher. Tous les autres mots sont des mots de tous les jours. Mais la combinatoire de ces mots, comme dans les pièces de Racine, fait que c'est génial.
C'est en cela qu'il est romancier plutôt qu'écrivain, je crois. C'est parce qu'il a un souci très, très poussé du langage et du choix des mots, du choix du mot adéquat et effectivement de sa combinatoire dans la phrase.
Et ce qui est formidable, et c'est pour ça que vous avez raison de dire, d'insister, Jean-Pierre, c'est un classique moderne, parce que presque 100 ans après, presque un siècle après le début, non seulement on le lit encore, on le plébiscite, mais il est traduit dans 30 ou 40 langues. C'est-à-dire que ce qu'écrit Simenon de Maigret ou de non-Maigret, au Japon, en Amérique du Nord, en Inde, les gens le comprennent de la même manière. Pourquoi ? Ben pour la même raison que Shakespeare, parce qu'il parle des passions humaines. Et les passions humaines, dans la Bible et dans Shakespeare, c'est pas daté, c'est indémodable. C'est-à-dire l'amour, la mort, l'envie, la jalousie, la haine, la honte, l'humiliation. Tout ça, c'est ça dont il parle. C'est ça le sujet. Eh bien, il y en a encore pour 100 ans. Parce que ça ne va pas disparaître, ça ne va jamais disparaître. Et la manière dont il en parle, n'importe qui peut s'identifier. Vous savez que les Simenons de télévision qu'on voit récemment, les nouvelles séries, vous savez où c'est tourné ? C'est pas tourné à Paris. À Paris, on ne peut pas tourner. Parce qu'à Paris, il y a partout des abribus, du mobilier urbain, sauf dans deux rues. Mais comme tout le monde tourne dans ces deux rues, on les a trop vus. Les Simenons, depuis Simenon anglais avec Juana Atkinson et tous les autres Simenons avec Michael Gambon, tout ça, ça fait au moins 30 ans, ils sont tournés à Budapest. Parce qu'à Budapest, c'est Paris des années 50. Il n'y a pas de mobilier urbain, il y a des rues entières, c'est Paris, mais des années 50.
Écoutez, je suis désolée parce qu'il est déjà 17h et on me fait des signes en plus. Il faut terminer. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va demander au commissaire Fanon qui nous invite l'année prochaine pour reprendre
pour
le sujet.
Pour continuer la discussion, avec plaisir.
Merci beaucoup d'être venu. Muchas gracias también por acompañarnos y quedeu-vos perquè ja, avui hi ha més coses encara aquí de Vesta Negra. Gràcies per ser-hi.
Merci.